encore. On n'est pas tous là à 10h, hein, donc c'est vrai, quand on commence un message, on voit plein de nouvelles têtes. C'est marrant. 2019, on commencera à 10h, avec tout le monde ici à 10h moins le quart. Vous êtes d'accord? Oui? 10h moins le quart, on démarre. Il y a un PowerPoint, s'il vous plaît, qui s'appelle du thème de ce dont on va parler ce matin, grand sujet. On va parler du combat spirituel. Vaste sujet, parce qu'on entend énormément de choses au sujet du combat spirituel, et c'est marqué merveille de la technologie. On entend énormément de choses au sujet du combat spirituel, et je trouvais important, avant de démarrer une semaine de jeûne et prière, de resituer en fait, un modèle biblique sur le combat spirituel et qu'est-ce qu'on entend dans ce sujet-là. Voilà, vous avez tous très certainement entendu plusieurs choses. Voilà ce verset que je voudrais vous afficher en premier. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà le verset, voilà ce que Paul nous dit dans Éphésiens 6, 12. Donc il nous situe vraiment un combat, non pas contre les hommes, mais un combat contre des principautés, contre des dominations, etc. Si on faisait venir 7 personnes différentes dans cette salle, qui représentaient un petit peu les différentes visions du monde, les différentes représentations, interprétations qu'on peut avoir aujourd'hui. Voilà ce qu'on pourrait avoir. Et je commence par là parce que peut-être qu'on se reconnaîtra dans l'une ou l'autre par rapport à ce verset-là. Un nihiliste, voilà ce qu'il dirait. Je ne crois pas à l'existence d'un combat dans un monde invisible, ni même d'un monde invisible. Je ne crois pas dans le fait de devoir lutter pour une cause supérieure. Donc ce verset, je le mets de côté. Voilà ce que dirait un nihiliste. Si on avait ensuite un athée qui est là, il dirait « Moi, je ne crois pas à l'existence d'un monde spirituel et encore moins d'un dieu. Donc pour moi, ben, il n'y a pas de combat spirituel. » Voilà ce que dirait un athée. Un naturaliste, ça existe. Il dirait « Je ne crois qu'à l'existence de la nature et ce qu'elle contient, ce qui est physique. Rien d'autre n'existe. Et s'il y a une divinité, ben, c'est notre mère nature et les principes qui régissent le monde. » Donc, ce verset-là, on ne serait pas d'accord non plus. Ensuite, on pourrait avoir un agnostique. Alors, l'agnostique, qu'est-ce qu'il nous dirait? En tant qu'homme, je ne peux pas dire s'il y a ou non un combat spirituel. Peut-être que oui ou peut-être que non. Dans tous les cas, que chacun pense ce qu'il veut, mais personne ne pourra jamais trancher. On commence à se reconnaître dans certaines de ces personnes. Un peu plus loin que l'agnostique, on a le relativiste. Et le relativiste, il pourrait dire, toujours par rapport à ce verset, « Il ne faut pas considérer ce que dit la Bible comme absolument vrai. Tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Il n'y a pas forcément de combat dans un monde spirituel, ou alors, je pense qu'il ne nous concerne pas, en tout cas, il faut relativiser un peu. » Après le relativiste, on pourrait avoir un humaniste. Et je vais considérer que c'est un humaniste chrétien. Peut-être qu'on se reconnaîtra un peu plus. Voilà ce qu'il dirait. S'il y a un combat dans un monde spirituel, il vise à mon bien-être. Dieu m'a sauvé, il m'aime, il combat pour moi. Et ça s'arrête là. Il veut mon bonheur et le combat spirituel, c'est pour que je sois heureux et béni. Puis enfin, la 7e personne qu'on aurait pu inviter ce matin pourrait être un dualiste. Et le dualiste, il dirait, si je crois qu'il y a un combat spirituel, je crois que c'est une lutte acharnée entre deux forces égales et opposées. Il faut se battre pour que Satan ne gagne pas. Voilà 7 personnes. Voilà 7 influences dans le monde. Voilà 7 discours qu'on entend tout au cours de notre vie, au travers de la publicité, des médias, des politiques, de l'école, de nos amis, de nos influences au travail. Voilà 7 discours qu'on peut entendre. Et au travers de tout ça, on se reconnaît peut-être hein, dans l'un ou l'autre. Et il me semble important de savoir quelle est la vision biblique sur ce sujet. C'est ça le plus important. Est-ce qu'elle rejoint l'un ou l'autre de ces courants-là ou est-ce qu'elle proclame quelque chose de différent? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont, sans le savoir, une vision plutôt dualiste du combat spirituel. Donc le dernier point que je disais, le dualiste, il considère qu'il y a un combat à forces égales. Il va considérer qu'il y a une sorte de tension entre Satan et Dieu, un peu à la Star Wars, où vous avez d'un côté les Jedi dans la lumière et puis de l'autre les Sith qui sont du côté obscur de la force. Et puis il y a un peu ce combat à armes égales où on est incapable de dire qui c'est qui va gagner à la fin, voire même il y a des épisodes où c'est pas du tout les Jedi qui gagnent. Voilà, il y a beaucoup de tension, beaucoup d'incertitude, peut-être beaucoup de crainte aussi par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui est assez répandu et c'est pour ça que je voudrais en parler maintenant. Ce n'est pas le modèle biblique, le dualisme. Et ça, on va le voir tout à l'heure. Donc, c'est essentiel de revenir à la parole de Dieu. Et donc, qu'est-ce que dit la parole de Dieu sur tous ces sujets-là ? J'ai essayé de faire court ce matin. Ce qu'elle nous dit premièrement, ce qu'elle nous enseigne en premier, c'est que le royaume, il appartient à Dieu seul. Le royaume n'est pas partagé. Il n'est pas partagé. Il appartient à Dieu et il n'y a qu'un seul roi dans ce royaume, un seul roi qui règne. Il y en a d'autres qui se proclament rois, hein, mais il n'y a qu'un seul roi qui règne, c'est Dieu. Voilà le premier fondement biblique que j'aimerais poser par rapport à ce combat spirituel et par rapport à ce qu'on vient de lire. Le deuxième fondement que j'aimerais poser, il se situe en Genèse et c'est le moment où Dieu délègue à l'homme l'autorité de régner sur la création. Dieu délègue son autorité. Dieu délègue son règne à l'homme. La position de l'homme, notre position, est celle d'être les princes de ce monde et celle de régner sur la création. Et ce n'est pas un abandon du règne de la part de Dieu, c'est une délégation de son autorité, c'est un partage de son autorité. Voilà la position de l'homme. Quand on dit ça, il n'y a pas encore de combat spirituel. Mais dans la Genèse, vous savez qu'il y a un troisième protagoniste dans l'affaire. Il y a le serpent, il y a le diable qui est là. Et j'aimerais qu'on regarde maintenant trois vérités absolument essentielles à connaître par rapport au combat spirituel. Et la première vérité que j'aimerais poser, c'est que Satan est bien réel et le monde démoniaque également. Ce n'est pas une invention de l'homme, ce n'est pas une allégorie biblique. Satan est bien réel. Et la Bible, elle nous dit que Satan, c'est quoi ? Satan, on le représente souvent comme un espèce de bonhomme rouge avec des cornes, une fourche, quelques flammes derrière, plutôt noir. C'est pas très sympathique. Sincèrement, est-ce que vous pensez que Ève aurait pu être tentée par quelque chose d'aussi répugnant ou d'aussi repoussant ? Moi, je crois pas. Et en tout cas, la Bible nous décrit exactement qui est Satan ou qui était Satan, du moins. Dans Ézéchiel, voilà ce qu'il est dit sur lui. « Tu mettais le sceau à la perfection. » Alors si je dis cette phrase autrement, c'est « Dieu mettait le sceau en Satan à la perfection de l'univers. » C'est ça qu'il faut comprendre. Satan était le couronnement de ce qu'il avait créé, de ce qui était dans le ciel. « Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé, etc. etc. » Et puis je vais jusqu'au bout. « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. » Est-ce que c'est cette vision de Satan qu'on avait jusqu'à présent ? L'être de lumière, Lucifer, celui qui porte la lumière, celui qui était glorieux, mais tellement glorieux qu'il a été corrompu par sa sagesse. Il a corrompu sa sagesse par son éclat. Il a voulu être l'égal de Dieu. Il s'est rebellé pour devenir comme Dieu, pour être son propre maître. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Il a été déchu du royaume de Dieu et précipité sur la terre. Ésaïe nous le dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Mais quand Satan dit « je serai », Dieu lui dit « je suis ». Et ça fait toute la différence. Et donc il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et donc voilà la position dans laquelle Satan est aujourd'hui, et en tout cas au début de notre histoire, où on est en Genèse, et il se retrouve là, à côté d'un arbre, dans cette allégorie, en train de tenter Ève, la femme. Il est précipité sur la terre, il a perdu sa place dans le ciel. Il a voulu être son propre maître, être comme Dieu. Et puis ça, ça n'a pas marché parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le premier fondement, c'est qu'il n'y a qu'un roi dans le royaume. Il n'y en a pas deux. Et donc ça nous amène à la deuxième vérité essentielle que je voudrais poser ce matin dans le combat, c'est la responsabilité de nos actes. Nous sommes responsables dans le cadre de ce combat. Donc Satan, en Éden, il vient tenter l'homme sur quel sujet ? Sur le même que lui. Il vient le tenter sur le fait d'être comme Dieu, le fait d'être son propre maître. Si tu manges de ce fruit, tes yeux vont s'ouvrir, alors vous serez comme des dieux. Il vient tenter, donc il recommence, hein, c'est lui, c'est ce qu'il est, c'est son moteur de vouloir s'élever au-dessus, et il vient tenter l'homme sur ce même sujet. Et donc qu'est-ce qui se passe ? L'homme est confronté à un choix à ce moment-là. L'homme peut agir, peut dire oui, peut dire non. Et qu'est-ce qui se passe ? L'homme pêche, il tombe, comme Satan. Satan qui tombe du ciel, l'homme tombe. Et on appelle en Éden la chute à ce moment-là. L'homme est tombé. Et qu'est-ce qui se passe au moment où l'homme tombe ? Au moment où l'homme pêche ? Je vous rappelle que l'homme était le prince du monde, était en autorité pour régner sur la création, une autorité déléguée par Dieu. Bien que l'homme ait tombé, Satan a usurpé son autorité. Et il est devenu, à la place de l'homme, le prince de ce monde. Voilà ce qui se passe à la chute. Voilà ce qui se passe en Éden. Il domine en tant qu'imposteur sur les affaires dont l'homme avait la responsabilité. La société, l'organisation de ce qu'on est, la nature, toutes ces choses-là sont aujourd'hui usurpées par Satan. Et on en voit le résultat, hein. Mensonges, trahisons, calomnies, perversité, abus, méchanceté, compétition, violence, abandon, inégalité, guerre, point de suspension. Donc notre monde actuel, on le voit bien, dysfonctionne. Clairement, il dysfonctionne. On a la moitié de notre population qui est dans la rue contre l'autre moitié. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Où on en est ? Mais on est toujours dans ce chapitre sur la responsabilité de nos actes. Et j'aimerais poser quelque chose là. C'est que si notre monde actuel il dysfonctionne, c'est pas premièrement la conséquence d'un jugement de Dieu en Éden. C'est pas parce que Dieu a jugé l'homme que le monde est tel qu'il est aujourd'hui. C'est pas ça, premièrement. C'est pas non plus à cause de la puissance de l'ennemi qui se déchaîne. Ça, c'est la conséquence, mais c'est pas la cause première de l'état du monde aujourd'hui. La première cause, c'est le choix de l'homme d'être son propre maître. C'est le choix de l'homme d'être l'égal de Dieu, d'avoir abandonné son autorité au profit de Satan, d'avoir vendu son droit d'aînesse pour un bol de lentilles. Hein ? Et dans beaucoup de situations où on peut se sentir attaqué par l'ennemi aujourd'hui, mais il est important de poser en premier la question des choix qu'on fait. C'est pour ça que je voudrais en parler maintenant. On entend parfois c'est des histoires que j'ai entendues, hein, vraies. Des gens qui disent ben, « j'arrive pas à me lever le matin régulièrement, j'arrive pas à me lever ce matin, je dois lutter contre un esprit de sommeil. » Tu te couches à quelle heure ? Non, sérieux, ça nous fait rigoler, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Je tombe dans la pornographie régulièrement, je lutte contre un esprit d'impureté. Est-ce que tu as mis un verrouillage sur ton ordinateur ? Est-ce que tu laisses un droit de regard à quelqu'un sur tes consultations Internet ? Est-ce que tu choisis de te lever et de marcher différemment ? Et bien souvent, on imagine du combat spirituel là où il n'y a pas de combat spirituel et là où il est simplement question de la responsabilité de nos actes, tout simplement. Et ce matin, j'aimerais à la fois décrire Satan est réel, le monde démoniaque est réel, et il est précipité sur la terre, et il a effectivement une autorité aujourd'hui que nous lui avons donnée pour faire plein de choses sur ce monde. Mais tout n'est pas à cause de lui. Et dans beaucoup de domaines de nos vies, il est simplement question de nos choix, il est simplement question de notre discipline et de la manière dont nous marchons. Donc attention à ne pas tout spiritualiser, mais à vraiment prendre en compte la conséquence de nos choix. On le sait, hein, Satan, il est appelé le tentateur dans la Bible. Donc il va venir susurrer à nos oreilles. Hein. Il a tenté Jésus. Jésus l'a confronté de manière visible et il lui a résisté par la parole de Dieu. Et il y a un verset qui est clé ce matin dans ce chapitre qui concerne nos actes, c'est celui-ci de Jacques. « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Je me sens attaqué. Est-ce que je dois faire face, lutter, prier le plus fort possible? Ou est-ce que je dois m'attacher à Christ? Ce verset-là est une force, ce verset-là est une clé dans nos vies, notamment par rapport aux choix que nous faisons. Attachons-nous à Christ. Attachons-nous à vivre selon Christ. Attachons-nous à être ses disciples. Et alors que nous faisons ça, le diable fuit. Le diable fuit. Dieu s'occupe du diable. C'est lui qui s'en occupe. Et nous n'avons pas à le confronter, lui, dans nos vies. On résiste à la tentation en nous attachant à Christ pour ce qu'il est. Donc ça, c'est une clé importante. Et puis Satan, il est aussi appelé l'accusateur. Parce qu'effectivement, certaines fois, on ne tient pas et on tombe. On est tous d'accord là-dessus. Merci Seigneur, la grâce nous relève toujours. Ça, c'est aussi une force. Et Satan est appelé l'accusateur. Et pour la petite histoire, à partir de vendredi, je suis convoqué en tant que juré d'assises au tribunal de Nîmes pour 4 semaines. Donc pendant 4 semaines, je vais potentiellement juger des personnes sur la culpabilité dans des affaires de meurtre, des affaires de viol, des affaires de vol avec arme, enfin des choses pas cool du tout. Et je vais me retrouver sur le banc de ceux qui doivent prononcer un jugement. Et pendant toute la durée du procès, j'ai vu un documentaire pour savoir un peu à quoi ça ressemblait, parce que ça fait un peu peur. Pendant toute la durée du procès, l'accusé, il est dans un box vitré, présent, il assiste à tous les débats, et il subit en fait toute la longueur de ce procès, qui dure 2 jours, 3 jours généralement, pour ce genre de truc. Et puis, il attend le verdict final dans son box, il est là. Et j'aimerais dire ce matin que ça, c'est pas notre position. Ça, c'est pas notre position. Et quand Satan vient nous accuser, quand on est convoqué dans ce tribunal-là, qu'on est mis dans un box derrière une vitre, ce n'est pas notre position. L'accusation de Satan ne tient pas pour la simple et bonne raison qu'il y a déjà eu un jugement. Il y a déjà eu un procès. Et c'est Jésus qui s'est tenu dans ce box vitré. C'est Jésus qui s'est tenu pendant 3 jours dans le tombeau, dans le séjour des morts. C'est Jésus qui s'est tenu là. C'est lui qui a porté la condamnation à notre place. Et c'est lui qui a obtenu la victoire sur la mort. Et à cause de ça, l'accusation de Satan ne tient pas. L'accusation de Satan ne tient pas. Combien de fois on est bloqué? Combien de fois on est mis à terre? Combien de fois on est arrêté parce que Satan nous accuse? S'il vous plaît, mes amis, proclamons dans nos vies et reproclamons encore combien son accusation n'a pas de fondement dans nos vies. Et quand bien même on sait que ça viendrait confronter quelque chose de tout à fait réel, oui, j'ai une mauvaise habitude et j'en paye les conséquences et Satan vient m'accuser là-dessus. Ok, je ne reçois pas ton accusation, mais je vais faire le choix de changer. Je vais faire le choix de changer. Ça, je peux le faire. Mais résistons à l'accusation. C'est quelque chose d'extrêmement important. Notre position n'est pas d'être à terre. On reconnaît, on résiste à l'accusation en reconnaissant Christ pour ce qu'il a fait. Et enfin, j'avance un peu plus vite. La troisième vérité essentielle que je veux poser ce matin, et on l'a chanté plusieurs fois, la souveraineté absolue de notre Dieu. On ne peut pas envisager le combat spirituel sans envisager, premièrement, la souveraineté absolue de notre Dieu. Quand Jésus il est venu, en prêchant le royaume et en faisant les œuvres qu'il a faites, il a envahi le règne de Satan avec le royaume de Dieu. C'est ça que Jésus a fait pendant 3 ans quand il a marché sur la terre. Il est venu envahir le règne de Satan, là où Satan dominait de par l'autorité qu'il avait. Jésus est venu envahir ce règne-là. Quand Jésus il est mort à la croix, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, il a totalement vaincu le prince de ce monde. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait à moitié, c'est quelque chose qui est fait totalement. Totalement. Depuis la chute, la mort elle avait des droits sur toute la descendance d'Adam, donc y compris nous, mais pas sur Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus était sans péché. Parce que Jésus est né d'une vierge, Donc il n'a pas hérité de ce qui venait d'Adam, hein, de cette descendance-là, et il a vécu parfaitement. Et à cause de ces trois choses-là, Jésus, il a repris le royaume. Et il l'a repris pas par la force, il l'a repris par la justice. Il l'a repris en étant trouvé juste de reprendre le royaume à celui qui tenait le monde. Dans ce que Jésus a fait, dans la manière dont il a vécu, c'est pas seulement sa mort, c'est pas seulement sa résurrection, c'est le fait qu'il ait aussi vécu parfaitement. Il a accompli toute la loi de Dieu. Et il a été trouvé juste aux yeux de Dieu. Et sa justice compte pour nous. Et sa justice nous rend l'autorité. Et sa justice nous redonne le droit d'être prince de ce monde. D'être prince de ce monde, à la place de Satan. En Jésus, nous retrouvons cette autorité que nous avons. Nous retrouvons cette place pour laquelle nous avons été créés de régner sur la création et d'avoir une influence autre que celle de Satan dans notre monde. Vous allez pouvoir dire, ok, mais Jésus règne, Satan est vaincu, pourtant le monde continue d'être dur, il continue d'y avoir de la maladie, des guerres, etc. Et c'est une question légitime. La Bible nous dit ça dans Hébreux. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, il est question de Jésus. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis tout sous ses pieds. En soumettant tout à son autorité, Dieu n'a rien laissé qui puisse ne pas lui être soumis. C'est une certitude. Or, actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais voici ce que nous constatons. Après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. Il n'y a pas d'équivoque. Même si nous ne voyons pas encore, la Bible nous dit que Jésus est aujourd'hui dans toute autorité et que tout lui est soumis. Et Paul l'explique également aux Corinthiens quand il dit « Puis viendra la fin ». Lorsque Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance hostile, il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et un peu plus loin. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité de Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi, Dieu sera tout en tous. Hein, ça fait écho à cette prière de Jésus. Qu'il soit en moi et qu'il soit un avec moi, afin qu'il soit aussi un en toi et uni à Dieu le Père. Et qu'on retrouve cette place à laquelle nous sommes appelés. Et donc ces versets, ils nous disent quoi ? Ils nous disent que Jésus, il règne déjà. Jésus règne déjà. Il est déjà dans son règne. Et il règne jusqu'à ce que tous ses ennemis aient été mis sous ses pieds. Et c'est pour ça que la prière du combat, notre prière, c'est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sous-entendu, jusqu'à ce que tous tes ennemis aient été mis sous tes pieds. La prière du combat, c'est « Seigneur, que ton règne vienne ». C'est pas « Satan, va-t'en ». « Seigneur, que ton règne vienne ». Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Révèle-nous ça et que nous en soyons porteurs. C'est ça la prière du combat, c'est que le royaume de Dieu soit démontré là où Satan dominait. Et Satan, il résiste à Dieu, et alors que nous avons, nous, pour mission d'envahir jour après jour le règne de Satan, le territoire de Satan, hein, l'usurpateur, bah, Satan, il nous attaque. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans une vision dualiste du monde spirituel, les attaques de Satan, elles peuvent nous déstabiliser, nous arrêter, nous mettre à terre. Mais ça, ce n'est pas dans la vision de l'évangile, où Jésus-Christ est ressuscité, assis au ciel, et qu'il est assis au-dessus de toute puissance. Il nous est dit qu'il est assis au-dessus de toute autorité dans les lieux célestes. C'est-à-dire que le combat spirituel, qui ne se situe pas contre la chair et le sang, mais qui se situe dans les lieux célestes, dans ce monde spirituel, on nous dit que dans ce monde spirituel-là, Jésus, lui, est assis au-dessus de toute domination, de toute autorité. Alors même si dans la chair et le sang, je vois des choses aujourd'hui, je me souviens que dans le monde spirituel, Jésus est déjà en règne sur toute autorité et toute puissance. Attrapons ça comme des béquilles collées à nos jambes, d'accord, pour qu'on puisse tenir droit et tenir ferme et marcher droit. Apocalypse nous dit qu'au travers de la vie de Jésus en nous, nous sommes appelés à être vainqueurs. Est-ce que c'est le terme qui peut caractériser nos vies aujourd'hui, en étant honnête? On est appelé, les amis, à être vainqueurs. C'est le terme qui est employé. Nous sommes appelés à être vainqueurs dans nos vies. Est-ce que vainqueur caractérise ma vie aujourd'hui? Je suis honnête, pas assez. Pas assez. Je ne dis pas non, parce que je remporte plein de victoires. Mais Seigneur, plus, apprends-moi à être encore plus vainqueur. Apprends-moi à saisir encore davantage l'autorité que je retrouve en Jésus. Apprends-moi. Je veux plus de victoires, Seigneur. Et j'ai l'opportunité, là, pendant une semaine de jeûne et prière, de me reconsacrer et de prier, Seigneur, fais de moi, fais de ma communauté des vainqueurs. Donc c'est vraiment dans ce contexte de tout ce que je viens de décrire qu'il faut comprendre le combat spirituel. Satan est déchaîné sur la terre. Il est le prince de ce monde avec une autorité qui lui a été déléguée. Il résiste à Dieu encore aujourd'hui. Il continue comme un poisson qu'on vient d'attraper et qui continue de se débattre là dans le... qui continue de se débattre dans le bateau, qu'on a même du mal à attraper. Satan est comme ça aujourd'hui. Satan est comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des pêcheurs là, qui ont un espadon dans un bateau. Les gars, ils sautent partout parce qu'ils ont peur de se faire empaler tellement le poisson bouge. Voilà où en est Satan aujourd'hui. Il est comme ça, mais il est vaincu. Il est vaincu. Il a été pêché. Il a été sorti de l'eau, de sa position d'autorité, et il est vaincu. Jésus règne. Et c'est absolument essentiel de comprendre le combat spirituel dans le contexte de ces trois vérités, la réalité de Satan, la responsabilité de nos actes et la souveraineté absolue de notre Dieu. Mais concrètement, ça se traduit donc comment le combat spirituel pour nous ? J'aimerais juste vous dire rapidement, on ne va pas prendre de verset, que le combat spirituel était une priorité dans le ministère de Jésus. Jésus a principalement chassé des démons, principalement guéri des malades, principalement amené le royaume, c'était ses mots, dans le territoire de Satan. Donc c'était une priorité dans le ministère de Jésus. Plus que l'enseignement, sa priorité a été de démontrer le royaume, de faire les œuvres du royaume. Donc c'était une priorité dans son ministère. C'était aussi une priorité dans l'ordre missionnaire qui a été donné aux apôtres. Il les a envoyés deux par deux avec le pouvoir, quand Jésus était encore sur terre, il les a envoyés deux par deux avec le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, et ils sont revenus avec lui joyeux de ce que les démons leur étaient soumis. Donc le combat spirituel est la première mission que Dieu a donnée à ses apôtres. Et c'est donc aussi une priorité dans nos vies. Le combat spirituel, ce n'est pas une affaire d'exception, ce n'est pas le sujet d'une semaine de jeûne et prière. C'est le sujet de la vie normale, c'est le sujet de notre quotidien, parce que nous sommes appelés, c'est notre mission, à envahir le territoire de Satan jour après jour. Nous sommes appelés à prendre pied dans ces territoires-là et à proclamer le royaume de Dieu à l'intérieur de ces territoires. Proclamer le fait qu'il y a déjà un roi qui est revenu dans toute son autorité, Jésus-Christ, et qu'il règne. Il règne en toi, il règne en toi, il règne en toi, il règne sur cette ville, il règne dans ce lieu. Voilà ce que nous devons proclamer. Ce n'est pas une option. On doit faire progresser au quotidien le royaume de Dieu dans le territoire de l'ennemi. Et pour ça, on n'a pas besoin de connaître l'organisation du monde spirituel. On n'a pas besoin de savoir est-ce qu'il y a des familles de démons, est-ce qu'il y a des démons plus importants que d'autres. Si je veux chasser le démon de la culpabilité, est-ce qu'en fait, il ne faut pas d'abord que j'aille chercher à la racine un autre démon plus compliqué et faire du combat spirituel une affaire de spécialiste? La Bible n'en parle pas. Et la Bible nous révèle ce qui est suffisant. Je ne dis pas que ces choses-là n'existent pas, ne me méprenez pas. Il y a une organisation du monde spirituel. Mais ce que la Bible nous révèle sur cette organisation-là, c'est que Jésus est assis au-dessus de toute principauté et de toute puissance. Et c'est la seule chose qu'on a à saisir dans le combat spirituel, l'autorité de Christ. Que nos yeux, les amis, ne soient pas focalisés sur le démon, ne soient pas focalisés sur Satan, ne soient pas focalisés sur les œuvres de l'ennemi, mais que nos yeux soient focalisés sur le règne de Christ. C'est de cette manière-là que nous ferons avancer le royaume de Dieu dans le territoire de Satan. Alors, pas de cartographie. On n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin de prier en criant très fort. On n'a pas besoin de devenir du combat spirituel. Non, L'autorité de Christ est déjà donnée. Il y a des moments où on va sentir effectivement qu'on doit prier avec autorité, mais ce n'est pas une norme. Ce n'est pas parce que je vais prier fort que je vais prendre plus de territoire. La Bible nous révèle ce qui est suffisant. Et ce qu'elle nous révèle, c'est que Jésus-Christ a déjà toute autorité et que nous devons faire les œuvres qu'il a faites. Et c'est de cette manière-là, je vais finir sur ce chapitre là-dessus, c'est de cette manière-là qu'on fait avancer le royaume de Dieu, c'est en faisant les œuvres du royaume. Ce n'est pas en priant dans notre chambre, de regarder sur la carte qu'est-ce qui se passe, de connaître les familles de démons, ce n'est pas en faisant tout ça. Dieu nous appelle à faire avancer son royaume en faisant les œuvres du royaume. Que sont les œuvres du royaume ? Prêchez la bonne nouvelle de l'Évangile. Partout, vous avez un roi qui est né. Et ce roi-là est aussi votre sauveur. Vous avez un roi. Prêchez partout la bonne nouvelle de l'Évangile, en toute occasion, qu'elle soit bonne ou pas, la Bible dit. Faire des disciples, faire des suiveurs de Christ, comme disait Joël tout à l'heure, pas des suiveurs de nous, des suiveurs de Christ. Que nous soyons une communauté de suiveurs de Christ. En faisant ses œuvres. Prenons soin des pauvres. Servons notre communauté. Impliquons-nous dans nos villes. Nîmes, Marguerite, est-ce qu'elle connaît notre Église ? Quel impact nous avons ? On aura des occasions pour prier sur toutes ces choses-là pendant la semaine. Guérir les malades. Chasser les démons. Ce sont les œuvres du royaume. Et en faisant ces choses-là, autour de nous, c'est là que nous faisons progresser le royaume de Dieu. Et c'est là que nous faisons reculer le territoire de l'ennemi. Gagner du territoire, c'est prier pour celui qui est en face de moi. C'est prêcher la bonne nouvelle pour celui qui est juste à côté de lui. C'est guérir celui qui est juste là. C'est chasser le démon de celui qui est là. C'est faire du bien à celui qui est encore à côté. C'est faire toutes ces choses-là à ceux qui sont autour de moi. Si nous tous, nous nous levons, si nous nous mettons en marche, et si nous, au quotidien, jour après jour, nous rentrons dans cette mission de Christ, mais que le monde va changer autour de nous. Nous avons la puissance de changer notre communauté. Nous avons la puissance de changer Nîmes sans aucun problème. Dieu a donné le monde entier à 12. Dieu a donné le monde à 12 et nous sommes bien plus que ça. Alors profitons de cette semaine de jeûne et prière qui est devant nous pour saisir ces réalités-là, les faire nôtres. D'accord ? Et puis nous lever. La Bible, elle nous parle d'être fort, dans le passage d'Éphésiens 6 que j'ai donné, si vous voulez lire chez vous, elle nous parle d'être fort, de développer donc une foi robuste, pas une foi à l'eau de rose, mais vraiment une foi robuste. Soyez fort, parce qu'il y a besoin d'être fort. Soyez fort dans la connaissance de qui Christ est. Soyez fort et tenez ferme, parce que ça demande de tenir ferme. Parce que, comme je disais tout à l'heure, Satan, c'est l'espadon dans le bateau qui est en train de bouger partout. Et nous avons à tenir ferme pour ne pas sauter du bateau. Quand les débuts passionnants de la vie chrétienne laissent place aux difficultés, aux moments plus difficiles, ça arrive, ben c'est là qu'il faut tenir. Voilà, c'est là qu'il faut tenir. Nous avons besoin de tenir, nous avons besoin de persévérer, d'être fort et de tenir ferme. Et ça, ça se passe quand on est attaché au cep. Je reviens sur ce verset qui nous tient cette année. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, alors vous porterez beaucoup de fruits. Il y a cette promesse de Christ que si je suis branché à lui, si je suis attaché à son cep, il va y avoir du fruit dans ma vie. Ce n'est même pas une question. Il va y avoir. Par contre, je ne dois pas être crevé pour chercher le fruit ou regarder quel fruit l'ennemi est en train de voler sur mon arbre. Je dois m'attacher au cep. Je dois m'attacher à Christ. Je dois connaître qui il est. Je dois savoir qu'il est assis dans toute son autorité et que j'ai cette autorité dans ma propre vie. Et enfin, je finirai là-dessus. On prêche le salut par la foi et non le salut par les œuvres. Mais parfois, on oublie quelque chose. On oublie ce passage de Jacques, encore lui, qui nous dit que comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes n'est rien. La foi sans les actes est morte. C'est puissant ce verset, les amis. C'est puissant. C'est puissant parce qu'il nous rappelle combien faire les œuvres du royaume est une priorité, est une démonstration de notre foi et notre mission. Nous ne sommes pas appelés à être croyants de Christ. Nous sommes appelés à être suiveurs de Christ et à faire ce qu'il a fait. Dans Éphésiens, Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées pour nous à l'avance afin que nous les accomplissions. Des œuvres bonnes, les œuvres du royaume. Voilà la clé du combat spirituel. Et je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à creuser là-dedans pendant cette semaine de jeûne et prière, à vous mettre à part, à vous challenger sur j'en suis où de ces œuvres aujourd'hui dans ma vie ? Est-ce que je suis un croyant ou est-ce que je suis un disciple de Christ ? Si je suis disciple, je vais combattre de la manière en faisant les œuvres. Je vais combattre si je suis disciple. Si je suis croyant, ben je ferai moins de mal au territoire de l'ennemi. Je serai sauvé quand même, mais en short. Et donc c'est notre responsabilité. Je pointe là sur notre responsabilité, celle de nos actes, celle de nos choix dans ce combat. Notre responsabilité de nous lever, d'aller et d'agir dans le monde, de faire les œuvres qui sont préparées pour nous. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et Jésus nous promet qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas quelque chose où Jésus nous envoie et il nous dit « débrouillez-vous, vous allez au charbon, vous allez en prendre plein la tête et puis ben, je vous retrouve à la fin de l'histoire ». Non, Jésus dit « je suis avec vous tous les jours, je suis avec vous tous les jours ». Ces œuvres-là que vous allez faire, c'est moi qui les ai préparées pour vous. Ce n'est pas vous qui les créez, c'est moi qui ai préparé ça pour vous. C'est moi qui ai choisi que l'histoire elle s'écrive au travers de chacun d'entre vous si vous êtes disciples. Et je finis par là. Je voudrais reprendre une prophétie que Pascal Galeux nous a donnée le 31 au soir. On a fêté le passage à la nouvelle année et on a été aussi extrêmement spirituel dans cette soirée-là. On a vraiment pris un temps pour reconnaître qui Dieu était, reconnaître ce qu'il a fait dans cette année et lui remettre l'année qui vient. C'était vraiment très riche. Et il y a une prophétie que Pascal a donnée qui je trouve, est très parlante pour le temps dans lequel on est aujourd'hui. Une porte est ouverte devant chacun de nous pour nous permettre d'aller le plus loin possible, d'avancer autant qu'on le peut. Dieu nous encourage à le faire de nous-mêmes, à devenir acteurs du mouvement. La perspective n'est pas qu'il ne puisse pas le faire pour nous, mais parce que nous sommes ses enfants, il prend plaisir à nous voir avancer et progresser. Il y a une porte ouverte devant chacun de nous pour nous permettre d'aller le plus loin possible, d'avancer autant qu'on le peut. Dieu nous encourage à le faire de nous-mêmes, à devenir acteurs du mouvement. La perspective n'est pas qu'il ne puisse pas le faire pour nous, mais parce que nous sommes ses enfants, il prend plaisir à nous voir avancer et progresser. Vous situez donc mon message dans le contexte de cette prophétie. Une fois que le terrain est dégagé, c'est la suite de la prophétie, une fois que le terrain est dégagé, les difficultés peuvent subvenir. Effectivement, Satan l'espadon est encore dans le bateau. Les difficultés peuvent subvenir, mais elles sont à nouveau un champ d'exploration. Et nous avons déjà la victoire sur tous ces défis qui sont devant nous. Et enfin, Dieu nous parlait au travers de cette parole d'accélération. D'accélération. Et moi, je crois fort à cette promesse-là pour notre communauté pour 2019. Je crois à cette promesse d'une accélération de ce que Dieu fait. Non pas parce que lui fait plus, mais parce que nous nous levons davantage. Parce que nous sommes moins croyants et plus disciples. Parce que nous sommes plus fermes et forts dans le combat spirituel qui est devant nous. Amen. C'est moi qui prie. Merci. Ben, en signe, je vous propose qu'on se lève et puis qu'on prie pour ça. On devait prier pour une nation, normalement parce que c'est le deuxième dimanche du mois. On a prévu dans le cadre de cette semaine de jeûne et prière un temps, c'est samedi, je crois, où on prie pour notre communauté, notre ville, les autorités et donc les nations. Donc on inclura ça là-dedans. Amen, Seigneur. C'est bon de nous souvenir de cette chose et de cette réalité qu'on a proclamée ce matin, que tu es assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination, et que tu as toute autorité, Seigneur, et que tu es là, Jésus, en règne, jusqu'à ce que tu aies mis tous tes ennemis sous tes pieds, Seigneur. Nous voulons avancer avec confiance dans ce que tu mets devant nous, Seigneur. Oui, nous n'avons pas peur de cette porte ouverte, Seigneur. Nous voulons vraiment la franchir et courir dans ce champ qui est devant. Explorer, Seigneur, les trésors que tu as mis devant nous, Seigneur, parce que c'est les promesses de bénédiction qui s'attachent aux pieds de ceux qui te servent, Seigneur, aux pieds de ceux qui courent dans ton royaume, Seigneur. Alors oui, nous voulons être des changeurs de l'histoire dans notre vie, Seigneur, dans notre ville, autour de nous, Seigneur. Nous voulons faire ces œuvres du royaume. Nous ne voulons pas être des croyants. Nous voulons être des disciples, Seigneur. Nous prions que pendant cette semaine de jeûne et prière, tu te révèles à nous d'une manière fraîche encore et une révélation qui nous pousse en avant, qui nous amène à sortir du bateau, à nous consacrer pleinement, Seigneur, et à avoir plus de fruits, comme ta parole le promet. Sois glorifié, Seigneur. Amen. Amen.
Merci, David. Merci beaucoup.